Têtes sont pleines de vos fleurs bleues, de vos « y a de la joie », de vos 150 chansons en forme de chef-d'œuvre. Vous avez 55 ans et vous n'avez pas changé. Vous êtes toujours bichonné, bien rose, bien net, l'œil est rond et brillant. Votre jardin de poésie est toujours extraordinaire. Est-ce que le personnage est bien campé?
Si vous voulez, c'est un peu comme ça que les gens me voient, mais... Je ne sais pas s'il y a une difficulté du reste comme ça. Moi, c'est tout naturellement, je suis comme ça. Remarquez que le matin, maintenant, je me lève à 6h du matin pour être au micro à 8h moins le quart. Vous savez, ça prend du temps pour venir de la Varenne jusqu'à la maison.
C'est vrai, vous faites partie de la maison.
Mais voilà.
Comment ça marche?
C'est très gentil, ça a pris un très bon départ. Ça fait déjà trois jours que nous sommes sur les ondes.
D'ailleurs, c'était un vieux rêve.
Oui, il y a très longtemps que je voulais être disque jockey, seulement je voulais pouvoir choisir vraiment les chansons, je ne voulais pas qu'on me les impose. Et alors ici, vraiment, je choisis en toute liberté.
Charles Trenet, revenons 37 ans en arrière. Vous montez à Paris et vous portez vos premiers poèmes au Mercure de France.
Eh oui, et je rencontre là-bas Paul Léoteau, que je connaissais évidemment, il était célèbre déjà à l'époque, on le connaissait dans province, mais je ne pensais pas que je serais reçu tout de suite par le rédacteur en chef du Mercure. Et alors à tout hasard, comme ça, je faisais la tournée des éditeurs, et je porte à Paul Léoteau un poème intitulé « Jeunesse ». Qu'est-ce qu'on peut écrire à 19 ans si ce n'est « Jeunesse » ? Et ce poème était dédié à Henri de Monterland. Et Paul Léoteau le lit comme ça, enfin le parcourt, et me dit bon, ça va, ben, je le prends. Et moi je pensais que ça allait passer dans 2 ou 3 ans, et puis c'est passé le mois suivant. J'étais très étonné. Et du reste, Monterland, qui m'écrivit un mois après, me dit « Vous avez dû faire souffrir cruellement la rédaction du Mercure de France ». Sans doute était-il un petit peu en mauvais terme avec eux. En tout cas, il a trouvé très original que je lui dédie ce poème dans ce journal-là.
Ce furent là vos débuts?
Oui, c'était mes débuts dans la poésie. Mais j'avais d'abord débuté à Perpignan comme journaliste dans le journal d'Albert Bozil, « Le coq catalan ». Alors là, je faisais la rubrique des spectacles.
Vous aviez, Charles Trenet, des amis qui s'appelaient Jean Cocteau, André Gide, René Clair, François Mauriac, Max Jacob. Vous avez gardé sans doute des souvenirs...
Oui, certainement, j'ai beaucoup fréquenté Max Jacob et Jean Cocteau...
Plus que Mauriac.
Que François Mauriac, quoique nous sommes en correspondance, et qu'il a écrit des choses très gentilles sur moi. Et avec Max Jacob, nos relations datent justement du temps où j'allais... voir les éditeurs, faire ma tournée, et j'avais un manuscrit qui s'appelait « Les rois fainéants ». Et j'allais porter cela à l'éditeur De Noël. De Noël Estil, à l'époque, qui habitait rue Amélie. Et là, De Noël me dit « C'est intéressant ce manuscrit, on dirait des choses de Max Jacob, est-ce que vous en avez lu beaucoup ?» Je dis « Non, pas beaucoup, j'ai lu le Cornéadé seulement. » Et il me dit « Mais écoutez, si vous voulez faire la connaissance de Max Jacob, venez demain, il déjeune à la maison. » Pensez si j'étais émerveillé de rencontrer Max Jacob. Et vraiment, à l'issue de ce déjeuner, Max Jacob me dit « Eh bien, jeune homme, si ça vous intéresse, venez donc me voir demain. » Je suis allé le voir le lendemain. Le lendemain, il me dit « Bah, écoutez, revenez demain, si vous voulez. » Et on s'est dit comme ça, il m'a dit « Revenez demain », comme ça pendant un an. Et je l'ai vu presque tous les jours.
Vous étiez... provincial, et je crois que vous aviez le complexe du provincial.
Oh, je l'ai toujours,
nous le gardons tous.
Oui, je l'ai toujours plus ou moins. D'ailleurs, le mot province a perdu un petit peu de son sens péjoratif, justement, grâce à ce qu'en pense André Malraux. Il n'y a plus.
Il est même devenu très beau, le mot province.
Et oui, c'est charmant du reste, la province. C'est quand même une espèce d'intimité du cœur qui reste. Mais il y a beaucoup d'intimité à Paris aussi.
Le premier bond du fou chantant, ça a été quoi?
Ça a été l'ABC. C'était à l'ABC. D'ailleurs, le fou chantant était déjà un petit peu connu à Marseille. Vous savez, lorsque j'ai fait mon service militaire, je faisais mon service militaire à Istres. Et alors, j'allais tous les samedis soirs chanter dans les sous-sols du Grand Hôtel, dans un petit cabaret qui s'appelait la Mélodie Tyrolienne et qui faisait partie du Grand Hôtel. Et le directeur, Edmond Bory, me connaissait sous le nom de Charles. Il ne savait même pas que je m'appelais Charles Trenet, parce que l'année d'avant, j'avais demandé un contrat lorsque j'étais chanteur duettiste avec Johnny, le numéro Charles et Johnny. Le service militaire nous avait séparés. Et j'étais revenu voir, pendant mon service militaire, Edmond Bory, en lui disant, écoutez, ça m'arrangerait si je pouvais venir chanter le samedi comme ça. Il me dit, bon, ben, essayez, vous aurez un contrat nourri et logé, puis on va vous donner un petit peu d'argent de poche. Seulement, ce qui n'avait pas marqué sur le contrat, c'était avec quoi j'étais nourri. Je n'ai mangé que du caviar, moi qui ne l'aime pas, du reste, pour faire bien. Et là-dessus, un beau jour, je vois afficher Charles le fou chantant. Voilà, c'était une invention de Marseillaise, dans le fond.
Qui n'était pas de vous.
Non, pas du tout, non. Seulement, il faut vous dire qu'à cette époque-là, on a cru que j'avais fait beaucoup de salles de police, ce qui est une erreur, j'en ai fait, comme tout le monde, pas plus de 7 ou 8 jours. Mais au service militaire, je m'étais fait tondre à ras. Peut-être pour renforcer ma chevelure, je ne sais pas. On m'avait dit qu'il fallait se faire couper les cheveux très courts pour les conserver. Et j'ai fait couper mes cheveux si courts qu'on croyait que j'avais été puni de salle de police. Alors, j'avais complété l'aspect général de ce personnage avec un monocle. Alors, j'arrivais comme ça au Grand Hôtel avec un monocle et les cheveux coupés au double zéro. Et ça faisait une sorte d'Eric Farmström assez farfelu.
Déjà le goût du panache.
Le panache qui ne flottait pas beaucoup, avec des cheveux à ras. Mais enfin, ça a amusé les gens, et on a trouvé tout naturel ce personnage du fou chantant.
Mais à ce moment-là, il n'y avait pas de direct depuis la côte, avec la radio, la télévision. C'était dur de se faire connaître.
Il y avait bien la radio, et j'en fis à Paris. Ensuite, quand je revins du service militaire, j'ai eu une émission qui s'appelait régulière, du reste, qui s'appelait Les Ondes Joyeuses. Si la radio était très bien écoutée, mais enfin, elle n'avait pas quand même le pouvoir qu'elle a maintenant.
Vous avez composé combien de chansons?
Oh, peut-être un millier, j'en ai déchiré la moitié. En tout cas, ce que je puis vous dire, c'est qu'il y en a 400 qui sont déclarés à la Société des auteurs.
Il y en a 150 qui sont des choses très célèbres.
Qui sont connus, oui, et beaucoup qui sont connus dans des pays différents. Par exemple, il y a des chansons qui sont célèbres en France, qui ne le sont pas à l'étranger, et par contre, des chansons qui sont beaucoup plus célèbres à l'étranger qu'en France.
Il n'y a jamais eu d'interruption dans votre inspiration. Est-ce qu'on peut appeler ça le talent?
Je ne sais pas, vous savez comment ça peut s'appeler? Ça peut s'appeler la chance, puisque j'ai une émission sur la chance aux chansons. Je crois que certaines de mes chansons, et beaucoup du reste, ont eu la chance de plaire, surtout qu'elles ont été lancées à une époque où on ne lançait pas les chansons. Finalement, elles se sont lancées toutes seules. Enfin, je les ai lancées, mais il n'y a jamais eu sur mes chansons une publicité fantastique d'éditeurs comme l'on fait à présent. Et d'ailleurs, qui agace un petit peu le public, je dois dire. Une trop grande publicité est nuisible, à mon sens. Je crois qu'il faut laisser partir une chanson toute seule, la laisser voler de ses propres ailes. Évidemment, il ne faut pas lui barrer la route, il ne faut pas la mettre dans une cage, mais il faut la laisser voler comme elle entend.
Vous n'aimez pas du tout ces chanteurs qui font 15 jours les unes des journaux, toutes les radios, toutes les télévisions, qui ensuite tombent dans l'anonymat?
Bon, je n'ai rien contre eux, vous savez. Ce que je déplore, justement, c'est quand ils tombent dans l'anonymat, c'est triste.
Êtes-vous, Charles Trenet, en bonne compagnie avec les jeunes?
Oui, excellente, oui, excellente. Surtout depuis, je ne veux pas dire depuis cette année, non, il y a déjà 2 ou 3 ans, je sens que vraiment un intérêt, une nouvelle génération est intéressée par mes chansons. Cette génération veut connaître mes très vieilles chansons, alors que la génération précédente, en fait, il y a 5 ou 6 ans, ne s'intéressait pas beaucoup à ces chansons qu'elle jugeait démodées l'autre fois. Alors, maintenant, j'ai l'impression que avec cette espèce d'explosion qui a été nécessaire, dans le fond, cette explosion yéyé, pour employer un mot un peu démodé, eh bien, après cette explosion-là, on revient au texte, voilà. Et je crois même que c'est dans le goût du public. Finalement, le public en a assez du sexe. Ce qu'il veut, c'est du texte.
Vous allez si loin, Charles Trenet, vous êtes tellement d'aujourd'hui, qu'on finit par ne plus savoir où vont vos ambitions.
Oh, mais je n'en sais rien moi-même. Je crois qu'elles dépendent beaucoup de l'ambition du public. Tant qu'il plairait au public de me laisser à ma place, eh bien j'y resterai, c'est tout.
Marcel Pagnol le dit hautement et clairement, Charles Trenet a sa place à l'Académie française. Et vous savez, il a prononcé cette forte parole il n'y a pas si longtemps.
Eh bien, pour l'instant, figurez-vous qu'il y a la place de ma voiture. Car tous les soirs, en allant au Don Camillo, j'ai trouvé une place magnifique à l'Académie française pour y garer ma voiture. Car je trouve toujours une place là. Enfin, espérant que j'aurai d'abord la place pour la voiture, et peut-être plus tard, si Marcel Pagnol y tient, eh bien, ma foi, je m'assierai dans un fauteuil. Après tout, on est pas mal dans un fauteuil. Non, mais je crois que c'est une petite blague de Marcel Pagnol. Parce qu'une fois, effectivement, il me l'a dit. Il m'a dit, il faut absolument que tu viennes avec nous à l'Académie. vie. Je lui ai dit, mais écoute Marcel, tu sais très bien que je suis incapable d'écrire et de prononcer le discours de réception. Il me dit, mais ça fait rien, je te le ferai. Il est gentil.
Avoue Charles Trenet que si on vous proposait, vous seriez quand même très flatté.
Mais forcément, bien sûr.
Est-ce qu'à partir de ce moment-là, vous essayeriez d'écrire la grande œuvre, un livre racontant des tas de choses?
Je ne sais pas, il me semble que j'essaierai au contraire de rester moi-même. Enfin,
peut-être
que le fait d'entrer à l'Académie française me donnerait une source d'inspiration nouvelle, c'est possible.
Charles Trenet, oui.
J'ai remarqué que lorsque vous avez un certain âge, par exemple, maintenant que j'ai 55 ans, on me félicite pour des chansons que j'ai faites lorsque j'avais 25 ans, 30 ans. Bon, eh bien, j'ai la faiblesse, évidemment, d'accepter ces compliments, hein. Quand j'avais 25 ans, j'avais commis un crime, par exemple, je dirais, vous savez, ce n'était pas moi. À cette époque-là, j'ai beaucoup changé depuis, vous comprenez. On ne veut, à partir d'un certain âge, qu'accepter des compliments, je crois. C'est une petite faiblesse de l'âge, ça.
Charles Trenet, vous le dites, vous avez 55 ans. Moi, je trouve que vous n'avez pas changé. Mais pour vous, est-ce que ces 55 ans pèse un peu?
Non, pas du tout. Non, je ne le sens pas. Je crois que cela tient au fait aussi de la... Je touche du bois d'une santé tout à fait normale.
Exceptionnelle?
Non, normale, parce que je ne fais pas quand même trop d'excès. J'en fais un petit peu pour savoir ce que c'est, parce que si, dans le fond, on n'en faisait pas, eh bien, on ne saurait pas ce que c'est. Alors, j'en ai fait pour savoir, justement, dans quelle mesure c'était dangereux.
Charles Trenet, nous allons prendre une autre dimension. Vous possédez une véritable fortune, des propriétés, des voitures, des tableaux. Vous est-il arrivé de penser à ce que deviendra tout cela?
Ça deviendra ce que ça voudra. Non, vraiment, je n'y ai pas pensé. Non, vraiment.
C'est une question qui vous ennuie un peu?
Mais non, parce que c'est une question... on ne peut pas poser à des vivants des questions qui concernent leur mort. Parce qu'une fois qu'on est mort, on ne sait pas du tout de la façon dont on va voir les choses dans l'absolu.
Non, je n'ai pas voulu faire de la prospective, ne croyez pas que je vous vois déjà. Non, pas du tout.
Non, mais vous comprenez, ce que ça deviendra, vous voulez dire quand vous serez mort.
Oui.
Bon, eh bien, quand je serai mort, je n'en sais rien de la façon dont je verrai tout ça. Alors, je ne peux pas savoir. Alors, je dis, ça deviendra ce que ça voudra. C'est-à-dire ce que le bon Dieu voudra. Ça, c'est le bon Dieu. Voilà.
Charles Trenet, vous auriez pu vous marier, être plus heureux, malgré votre goût, qui est terrible, de l'indépendance. Vous est-il arrivé d'envisager le mariage?
Certainement, bien, bien souvent. Ça m'est arrivé en 1943, et j'ai failli me marier en 1944. Et puis ça m'est arrivé aussi aux États-Unis en 1948. Et maintenant, il y a quelques jours aussi, je me demande... Alors là, quand vous me demandez... Qu'est-ce que ça va devenir, votre fortune et tout ça, et vos tableaux, et en disant, bon, là, je vous dis, ça deviendra ce que ça voudra. Mais si vous me demandez, qu'est-ce que vous allez devenir, vous, tout seul? Alors là, c'est une question qui est un problème pour moi, parce que non, je ne sais pas ce que je vais devenir. Je crois qu'il faut chercher...
Vous y pensez?
Oui, beaucoup, énormément.
Charles Trenet, je rappelle votre âge, 55 ans, parce que ça me paraît étonnant. On peut imaginer à cet âge-là ce que pourrait être une descendance. Vous n'avez pas d'enfant, comme moi d'ailleurs, mais est-ce anormal?
Bon, vous savez, je peux considérer tout de même que, ayant épousé la chanson, j'ai eu quelques enfants avec elle, qui sont les couplets et les refrains que l'on connaît un peu. Ce sont mes enfants aussi.
Je voulais vous demander surtout si vous pensiez à l'avenir, si vous alliez beaucoup plus loin. Il y aura bientôt une fondation Charles Trenet. Non, votre frère est là près de vous, j'aimerais qu'il ne soit pas inquiet.
Ah oui, c'est vrai qu'il est là. Il n'est pas inquiet du tout. Est-ce qu'on l'entend assez pour qu'il puisse dire qu'il n'est pas inquiet? Claude, est-ce que tu es inquiet?
Mais j'ai eu la force de me lever pour pouvoir dire que je ne suis absolument pas inquiet du tout.
J'aimerais savoir, vous êtes Claude Tabé. Je voudrais savoir comment est-il, votre frère?
Et vous savez, Charles reste toujours pour moi une énigme, mais c'est pourquoi, du reste, il reste jeune. Parce qu'on n'arrive pas à le découvrir.
Alors, moi, les énigmes, ça n'a pas d'âge.
Moi, c'est éternel, ça n'a pas d'âge. Il est éternel, il n'a pas d'âge. Et c'est vrai.
Il a le sens de la famille.
Oui. Je crois qu'il ne va pas tellement se l'avouer, mais il l'a, au fond.
Vous êtes marié, vous?
Moi, je suis marié, oui.
Vous avez des enfants?
Je vais en avoir prochainement, j'espère.
Charles Trenet, nous parlions un instant des enfants, et surtout de ceux que nous n'avons pas. Vous êtes sensible à tout cela?
Oui, oui.
Est-ce que vous seriez un bon père de famille?
Je crois. Mais là où j'ai des doutes, c'est du point de vue de l'éducation que je donnerais à mon enfant. Je ne sais pas si je suis un bon éducateur. Il faut que je travaille ça. En tout cas, je suis capable de lui donner beaucoup d'affection, certainement. Seulement, souvent, ça peut gâcher un enfant quand on l'entoure de trop de tendresse. Trop ou trop peu, c'est dangereux aussi.
Puis parfois, un enfant est également trop prisonnier de sa mère.
Oui, ou de sa famille, bien sûr.
Est-ce que vous n'avez pas été un peu prisonnier de votre mère,
Charles Trenet ? Non, pas du tout. Oh, pas du tout. Absolument pas.
Qui était trop tendre, trop empressé.
Non, c'est qu'on a. Il y a une légende entre ma mère et moi, tout ça. Non, au contraire. Nous avons des rapports de mère à fils, mais absolument tout à fait gentils et pas du tout. Je suis pas du tout le chouchou à ma mère et tout ça, ni le garçon qui restait petit enfant et qui demande la permission à sa mère. Tout, pas du tout. Au contraire, avec ma mère, nous parlons comme de vieux camarades. On a des conversations d'hommes, parce que ma mère est très féminine, mais c'est une femme qui a beaucoup d'autorité, de volonté, et elle ne m'a jamais chouchouté, pas du tout. Elle est pas du tout efféminée, elle est très féminine, mais elle n'est pas efféminée. Voilà.
Charles Trenet, tout à l'heure nous parlions de vos propriétés. Vous avez du goût pour les nombreuses propriétés.
Oui, écoutez, là il y a encore une légende à tout ça. Vous savez, les propriétés, on peut...
Moi je trouve ça très bien, lorsqu'on peut. Oui. L'amour des vieilles pierres, c'est...
Oui, mais je commence à en avoir un peu assez de toutes ces propriétés, franchement. Je voudrais bien me débarrasser de celle d'Aix-en-Provence. Enfin, elle m'embarrasse pas beaucoup, parce que j'y vais pour les vacances. Mais enfin, c'est trop tout ça. D'ailleurs, j'ai mis à la vente.
Et les voitures ?
Les voitures, c'est encore une autre légende. Figurez-vous que je roule en ce moment avec une voiture, une Renault que j'ai louée. J'en suis très content du reste. Et ça m'a fait oublier toutes les autres voitures. Alors je crois que finalement, je vais acheter la voiture que j'ai louée et la garder.
Oui, mais vous avez les autres quand même.
Oui, seulement ça, c'était la voiture que j'ai actuellement. C'est la seule auto mobile que j'ai. Les autres sont des autos immobiles qui sont dans les garages. Dans les garages d'Aix-en-Provence et de Juan-les-Pins. Et je m'en sers pas.
Charles Trenet, on ne prête et surtout on emprunte qu'aux riches. Il y a 2 ans, vous vous êtes aperçu que Charlie Chaplin vous avait volé.
Oh, c'est un bien grand mot, n'exagérons pas.
Des premières mesures de votre romance de Paris, il avait fait sa fameuse musique du film La Comtesse de Hong Kong, vous avez tempêté, et l'avocat de Charlot a fait savoir que vous manquiez de mesure, ce qui était grave pour un musicien.
Mais est-ce que ce n'est pas vous qui avez manqué un petit peu de mesure? Car c'est à vous que j'ai donné l'information, Chancel, c'est à vous.
Je me rappelle très bien.
Qui avez eu la première information de ça. Évidemment, vous avez eu raison de le faire connaître au public, puisque c'était la vérité, mais je n'ai tout de même pas tempêté, comme vous dites. Non, j'ai simplement demandé à mon avocat d'essayer de faire instruire cette affaire, parce qu'enfin, tout de même, les musiques se ressemblaient beaucoup, et elles se ressemblent encore plus maintenant.
Ça va être réglé ces jours-ci, d'ailleurs.
Eh bien, demain. Demain, nous avons rendez-vous chez M. Van Paris, le compositeur que vous connaissez, et qui est chargé de... Il est expert dans cette matière-là. Alors, il va nous présenter son travail d'expertise.
Vous avez eu des contacts avec Charlot ?
Aucun. Je l'ai connu aux États-Unis. Je l'ai vu une fois à New York, lorsque je débutais, où il est venu me rendre visite avec Mary Pickford. Nous avons passé une soirée charmante, nous avons sympathisé tout de suite. C'est un homme très très agréable, qui n'est pas triste comme on croit en général. On croit que les comiques sont tristes. Il est très gay, il est très amusant, on a bien ri. Je lui chantais le grand café en marchant comme lui, avec les pieds de Charlot. Il était vraiment adorable.
Charles Trenet, on aborde maintenant le côté désagréable de votre personnage. Désagréable seulement pour ceux qui vous connaissent mal. Vous êtes coléreux, vous êtes susceptible, vous avez vos coquetteries et vous n'admettez pas qu'on les froisse. Est-ce bien cela ?
Bon, je n'en sais rien. Vous savez que je vais vous dire une chose d'ailleurs qui est assez banale, c'est que on finit par trouver que les gens qui ont seulement du caractère ont mauvais caractère. Je crois que j'ai été assez coléreux il y a une quinzaine d'années et je m'en suis corrigé parce que souvent les nerfs prenaient le dessus chez moi et je me suis sauvé en faisant beaucoup de culture physique. Et ça m'a permis de dominer mes nerfs. C'était à une époque aussi où je travaillais énormément, je voulais imposer mon idée dans la chanson, et pour cela j'ai beaucoup bataillé, car ce n'est pas venu tout seul. Et alors évidemment, il en ressortait à cette époque-là une nervosité permanente, qui explosait parfois. Mais enfin, tout le monde sait très bien qu'il n'y a jamais eu de méchanceté dans mes colères, etc. Elles resteront peut-être dans le souvenir des gens comme certaines colères du grand Rému. C'est pas que je veux m'identifier à lui, qui est un génie. Mais enfin, ça n'est jamais allé très loin, ces colères. Les gens savent très bien que je ne suis pas méchant.
Vous êtes un vrai professionnel et dans le fond, vous n'aimez pas la médiocrité.
Oui, mais peut-être que je n'aime pas la médiocrité parce que je ne suis pas un vrai professionnel, justement. Il y en a tellement maintenant de médiocrité dans la professionnelle. Non, je crois, Maurice Chevalier m'a défini. Une fois, on lui a dit, écoutez, et Charles Trenet, il dit, bon oui, mais c'est un amateur. Et c'est très gentil ce qu'il a dit, car c'est vrai. Voyez, je suis, je crois, le contraire d'un professionnel. Évidemment, je crois que j'ai pris un peu ce qu'on appelle le métier. Il faut bien, mais enfin, j'essaie de ne pas en prendre trop pour garder justement cette fraîcheur qui convient assez à mes chansons. C'est pour ça que je peux chanter actuellement mon répertoire d'autrefois.
Quelle différence faites-vous entre les deux mots professionnel et amateur ?
Eh bien, professionnel, c'est peut-être un petit peu le fonctionnariat de la chose. Il y a du bon dans le professionnel. Le professionnel, c'est le monsieur qui connaît son métier à fond, mais qui, à force de connaître son métier, finit par oublier les bases même de ce métier, qui sont la sensibilité. Car le métier d'artiste est fondé sur de la sensibilité. Si on n'a pas de sensibilité, il est bien difficile de s'épanouir et de transmettre ses émotions à d'autres, si on n'en a pas. Il est difficile de faire éprouver aux autres des sentiments qu'on n'a pas. Il faut les avoir eu au moins une fois. Et c'est ce que font les grands acteurs, je crois, au théâtre. Ils sont imprégnés de leur rôle, et évidemment, ils ne le vivent pas tous les soirs. Ils l'ont photographié une bonne fois pour toutes. C'est en ce sens qu'ils sont des professionnels, mais le premier soir, la première fois qu'ils ont joué, ils le jouaient un amateur, ce qui veut dire qu'ils aimaient leur rôle, qu'ils le vivaient, qu'ils étaient dans leur rôle.
Oui, l'amateur, dans le fond, c'est celui qui n'en finit plus d'aimer ce qu'il fait.
Absolument. Comme l'original est celui qui passe son temps à essayer de faire comme tout le monde sans y parvenir.
Charles Trenet, pour une trahison sur le plan de l'amitié, vous êtes capable ou bien de faire scandale ou bien de faire justice?
Non, je ne crois pas.
Non?
Oh non, d'abord, qu'est-ce que c'est que faire justice? Hein? Je n'en sais rien. Où est la justice?
Est-ce que vous êtes simple?
Oui. Et d'ailleurs, je suis tellement simple que les gens croient souvent que je suis compliqué. C'est parce que je suis trop simple. Cocteau disait autrefois, c'est à force d'être clair qu'on passe pour être un écrivain hermétique. C'est vrai. Moi, je crois au contraire que je suis la simplicité même.
Vous aimez respirer de temps en temps?
Remarquez que ce n'est pas très simple, ce que je vous dis là. Quand on dit je suis la simplicité même, ça a l'air... C'est vraiment une phrase qui est compliquée.
Mais c'était
non,
bien
pas
dit.
Du tout compliqué.
C'était bien
non.
Dit.
Non, je ne suis pas compliqué du tout. D'ailleurs, je crois que, voyez, pour être compliqué, il faut avoir une espèce d'intelligence que j'avoue ne pas avoir.
Quand nous chanterons le temps des cerises, les guirlandes, les merles au cœur, seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons le temps des cerises, sifflera bien mieux le merle moqueur. Mais il est bien court, le temps des cerises, où l'on s'en va de cueillir en rêvant des pendants d'oreilles. Cerises d'amour, aux robes vermeilles, tombant sous la mousse, en gouttes de sang. Mais il est bien court, le temps des cerises, pendant de corail, qu'on cueille en rêvant. J'aimerais toujours le temps des cerises. C'est de ce temps-là que je garde au cœur une plaie ouverte. Et dame fortune, en m'étant offerte, ne pourra jamais calmer ma douleur. J'aimerai toujours le temps des cerises, le souvenir que je garde au cœur. Et le souvenir que je garde au cœur. Et le souvenir que je garde au cœur. Et le souvenir que je garde au cœur.
Charles Trenet, vous êtes conscient de votre popularité, de l'effet que produit votre nom. En abusez-vous?
Bien justement, je ne suis pas du tout conscient de cela. C'est très curieux. Je crois, au contraire, que je suis resté un peu comme à l'époque où un jour je demandais à l'éditeur Raoul Breton, mais enfin, alors si je dois chanter tout seul, quel genre dois-je faire? Et il me répondit, fais le genre Charles Trenet. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et je n'en savais rien. Et petit à petit, en faisant ce que je ressentais profondément, c'est le public qui m'a dit le genre que j'avais, qui me l'a indiqué. Mais en fait, moi, je ne sais pas exactement mon genre. Je sais peut-être le genre que je représente pour le public, mais je ne sais pas, en réalité, le genre que j'ai ou que j'aurai.
Notre génération vous a retrouvé et les jeunes vous ont découvert. Est-ce que vous êtes sensible à l'estime, à l'appréciation des jeunes?
Certainement, si ce sont des jeunes intelligents, oui. Moi, je suis sensible surtout à l'appréciation des gens intelligents.
Vous allez finir par me faire croire qu'il y a des jeunes qui ne sont pas intelligents.
Mais certainement, comme il y a des vieilles personnes aussi qui sont idiotes, c'est sûr. Seulement, ce que je déplore, c'est d'ailleurs qui est en passe de s'en aller maintenant, c'est cette mode qui a consisté, il y a quelques années, à mettre la bêtise, justement, à la mode. La mode était à la bêtise, chez les jeunes, surtout dans la chanson. Et je connais beaucoup d'auteurs qui ont beaucoup de talent, qui se sont transformés en imbéciles, justement, pour être à la mode et pour être dans le vent. C'est quand même curieux que pour être dans le vent, pour être à la mode, il faille se faire idiot, quand même. C'est absurde.
Vous voulez parler de l'époque de la chanson yéyé?
Oui, de tout cela, même du comportement aussi des jeunes en dehors même de la chanson. Voilà des jeunes gens, des jeunes filles qui faisaient des études parfaites, qui étaient extrêmement brillants, et puis qui, lorsqu'il s'agit de s'amusaient comme des imbéciles, des idiots, parce qu'ils croyaient que c'était la mode, qu'il fallait faire comme ça. C'est quand même curieux. Ça m'a toujours étonné, ça.
Cette jeunesse d'aujourd'hui, vous la trouvez comment, d'une manière générale?
Alors que je pense, moi, à ma jeunesse, moi qui n'étais pas un brillant sujet au collège, qui était même un peu dans les derniers, surtout en mathématiques, eh bien, j'ai l'impression qu'on s'amusait d'une façon plus amusante. On riait pour rire. Et le rire, c'est un peu perdu, c'est devenu des ricanements, maintenant.
Tandis que maintenant, ils pensent avant de rire.
En même temps, ça repart très bien. Ça repart très bien. Il y a une génération beaucoup plus saine qui vient puiser aux sources, vraiment, je ne dis pas ça par chauvinisme, mais il y a une génération beaucoup plus française, maintenant.
Une vraie génération.
Vous voyez, qui a vraiment son mot à dire, qui le dit bien, et alors ça se traduit dans le petit domaine de la chanson, que je connais mieux que les autres, par un goût, une fraîcheur qu'il n'y avait pas il y a 2 ou 3 ans.
Parce que la contestation, dans le fond, c'est l'enthousiasme.
Oui, ou alors c'est l'art de venir dire n'importe quoi aussi. Parce que j'aime beaucoup la contestation, à condition qu'elle soit intelligible. J'aime bien que l'on conteste, mais que l'on conteste en disant pourquoi on conteste. Si on vient contester uniquement pour venir se mettre dans le vent et dire des imbécilités ou des insanités, c'est triste quand même.
Quels sont, Charles Trenet, les chanteurs que vous considérez comme vos pères?
Parmi les compositeurs, j'aime beaucoup Michel Polnareff. Je crois que c'est un très grand musicien.
Vous croyez qu'il fera une grande carrière?
Certainement.
De compositeur?
Oh, certainement. Et même comme interprète, il chante très bien. Très très bien.
Les autres?
Naturellement, je place Brassens au-dessus des autres.
Vous avez vu que Jean Co a dit Brassens zéro.
Oui, d'autant plus qu'il disait ensuite qu'il me préférait. Moi, ça, c'était très gênant. Parce qu'il disait, il aimait, dans le fond, Jean Co n'aimait personne. Et il disait, à l'exception de Charles Trenet, que je place au-dessus des autres. Alors, ça me gênait beaucoup parce que j'aime beaucoup Brassens. Et je l'admire profondément. Et Il m'est difficile de comprendre pourquoi Janco n'est pas sensible à l'art de Brassens. Il faudrait qu'une fois, on se rencontre et que...
Face à face.
Oui, et que j'explique un petit peu à Janco ce qui m'intéresse dans Brassens, parce que Brassens est le premier toujours à dire, mais moi, Charles Trenet a eu une certaine influence sur moi. Lorsque Brassens avait 17 ans, 18 ans, moi j'en avais 28, j'étais déjà connu. Il faut penser que Brassens a 47 ans maintenant. Moi, j'ai connu Brassens quand il était très jeune, et Brassens se souvient de mes premières chansons et connaît mieux que moi certaines chansons que je chantais avec Johnny. Il chante très bien Le Petit Oiseau, Le Fiancé, tout ça. L'autre jour, je n'avais pas ses disques, et c'est lui-même qui me les a envoyés de sa propre collection des anciens 45 tours, et il a marqué sur le... sur l'enveloppe du disque, première chose à sauver en cas d'incendie.
C'était gentil. Votre trilogie à vous, Charles Trenet, est-ce Brassens, Brel, Ferré?
Oui, certainement. Oui.
N'entre pas dans cette histoire Johnny Hallyday, Richard Anthony,
Claude François. Ah, mais ça c'est différent, mais ce sont des expressions
différentes. Pas dans la trilogie, c'est tout à fait autre chose.
Vous parlez de gens qui sont des troubadours, Brassens... Brel font les paroles et la musique. Léo Ferré fait sa musique aussi, et parfois certaines de ses paroles. Aznavour aussi écrit paroles et musique. J'aime beaucoup Aznavour. Et Beko qui écrit sa musique aussi, fait de très belles musiques.
On en arrive à Serge Reggiani. Serge Reggiani était ici avec nous il n'y a pas si longtemps, et je crois que votre frère, Claude Trenet, a écrit une chanson pour lui.
Oui, j'ai écrit une chanson pour lui. Du reste, je l'ai fait entendre hier. Et il a beaucoup aimé, beaucoup apprécié. Je crois qu'il va la mettre en chantier, c'est-à-dire, et en chanter, j'espère, après. Et il commence à la travailler, je crois, dans la semaine.
Charles, est-ce que vous conseillez de temps en temps votre frère?
Oh, je n'ai aucun conseil à lui donner. Il est assez grand pour ça. D'ailleurs, je ne l'ai jamais conseillé, même quand il avait 15, 16 ans. Nous avons 15 ans de différence. Il a 15 ans de plus que moi. J'ai 15 ans de plus que lui.
Non, mais ça partait d'un bon sentiment.
Vous voyez ce que c'est que les compliments que vous faisiez tout à l'heure? J'ai oublié que j'avais 15 ans de plus que mon frère. Donc Claude a 40 ans maintenant et on n'a pas à le conseiller, d'autant plus que ça marche très bien ce qu'il fait tout seul. Mais autrefois, je pense qu'il a quand même bu aux sources de certaines inspirations mélodiques. Mais il s'est consacré à de la musique un petit peu plus sérieuse, puisqu'il a écrit même une grande messe chantée, chose dont je suis bien incapable. Je remarque que je pourrais peut-être la chanter, mais pas l'écrire.
Charles Trenet, vous avez rêvé une nuit que vous seriez animateur de radio, disque-jockey, comme vous le disiez tout à l'heure, et vous l'êtes. La chance aux chansons, c'est le titre de votre émission, mais c'est aussi une nouvelle chance donnée à Trenet, peut-être.
Oui, la chance de dire ce qui lui plaît sur la chanson et de signaler au public les chansons qui l'ont touché. Évidemment, c'est une chance pour moi, ça me fait un grand plaisir, mais en même temps qu'une chance pour moi, je crois que c'est un devoir, un véritable devoir. Parce que j'aimerais beaucoup révéler au public de nouveaux auteurs, et il n'en manque pas.
Mais comment les dire?
Eh bien, il ne faut pas aller les chercher chez les directeurs artistiques des maisons de disques. Oui. Il ne faut pas, parce qu'ils n'y connaissent rien, la plupart. Quand les directeurs artistiques d'une maison de disques, eh bien, c'est connaître à 80% ignorant de ce qu'est la bonne chanson. Je parle des chansons. Attention, ils sont forts pour autre chose.
Pour la promotion.
Pour d'autres expressions, et même pour le choix de certaines expressions musicales très amusantes, des disques de danse, tout ça. Moi, je ne suis pas du tout contre cela. Mais la chanson, il faudrait tout de même qu'ils la connaissent. La chanson est une chose de notre pays. Le monde entier aime la chanson française. Quand on est français à l'étranger, même si on n'est pas chanteur, on vous demande de chanter tout de suite parce qu'on sait que les Français chantent toujours et qu'en France, tout se termine par des chansons. Eh bien, il faudrait que maintenant, l'année en France commence par des chansons. Il faudrait qu'elle commence par des chansons et par des chansons nouvelles, que l'on découvre de nouveaux visages, de nouvelles voix et de nouveaux talents.
Mais comment allez-vous les chercher, ces talents?
Eh bien,
ces futurs talents.
Je profite de mon émission, La Chance aux Chancelles.
Ils peuvent vous écrire.
La Chance aux Chancelles.
C'est très joli ce que vous venez de faire. Vous voulez le refaire encore une fois?
Oui, La Chance aux Chancelles. Eh bien, vous comprenez, nous allons faire, n'est-ce pas, une sorte de chancellerie, si vous voulez. Oui. De chancellerie de la chance, voilà. Et dans La Chance aux Chancelles, je demande aux auditeurs de nous envoyer leur production. Il y a certainement des talents. Il y a des gens qui n'osent pas. Songez que lorsque j'ai débuté, moi, eh bien, il n'y avait pas tellement de chansons de genre poétique. Et sans m'en douter, j'avais pris donc ce genre de Charles Trenet, dont Raoul Breton me disait de suivre la voix. Eh bien, je ne le savais pas, moi, que je faisais des chansons poétiques. Je les faisais parce que je les sentais. Mais à ce moment-là, il y avait des chansons qui n'étaient pas mauvaises, mais elles n'étaient pas très, très, très poétiques. Alors, sans m'en douter, j'ai ouvert la porte, et ils le disent tous, à cette génération de chanteurs poètes. Bon, mais elle ne va pas durer éternellement. Il faut aussi qu'il y ait une génération montante. Et alors, il faut dire aux jeunes, écoutez, c'est terminé maintenant cette histoire de faire les imbéciles. Vous n'êtes pas bêtes du tout. Et prouvez-le. Voilà. Eh bien, prouvez-le en nous envoyant de jolies chansons. Mais il ne faut pas croire qu'il faut faire des chansons rikiki comme on faisait autrefois. Moi, je ne suis pas du tout pour les...
Rikiki, vous visez Georgette Plana, là.
Oh non, je plane dans d'autres sphères, justement. Je l'aime beaucoup, Georgette Plana. Mais enfin, vous confondez Rikiki avec Rikita.
C'est à peu près. C'est ce qu'on appelle les à peu près.
Non. Ce n'était pas ça que je voulais dire. Non, mais simplement, il faut dire aux jeunes, écoutez, cherchez en vous-même, et vous verrez que c'est vous qui allez lancer la mode. Mais une mode intelligente, digne de vous.
Je suis persuadé qu'il y en a beaucoup qui ont écouté.
Me plaît infiniment. Je crois que c'est le vent et la jeunesse. Mais qui est-ce qui chante ça? Parce que moi, je la connaissais par les troubadours.
Esther O'Farrin.
Ah oui, mais je connais son nom. Ah, c'est elle qui chante.
C'est une bonne chanson.
Ah oui, excellent. Et elle la chante très bien. Voilà un modèle. Voilà, messieurs du Midem. Hein? Achetez des chansons dans ce genre-là. Ça, c'est bon, ça. Et alors, avec ça, vous verrez que vous aurez le public. Parce que finalement, le public, vous le savez très bien, le public n'a pas mauvais goût. Il a bon goût, le public. Seulement, à force d'entendre des âneries, il finira par croire qu'il n'y a pas autre chose. Alors finalement, comme il a faim de chansons, et quand il n'y a pas de beurre, on prend des ersatz. Mais tout de même, maintenant, je crois que nous avons du beurre, surtout avec des chansons comme ça. Oh, c'est une chanson vraiment ravissante. La musique est de Christian Chevalier, je crois, oui.
Vous êtes plus au courant que moi. Moi, je connais l'interprète, vous connaissez
c'est de
le compositeur.
C'est vraiment très délicat, très fin, et puis la ligne de chant est très... Enfin, c'est une chanson comme je les aime, c'est une vraie chanson. Et c'est une vraie chanson qui va résister au temps. On peut écouter cette chanson-là, Le vent à la jeunesse, dans 10 ans, elle n'aura pas changé, j'en suis sûr.
C'est la première fois que nous présentons une chanson de cette manière-là, car en principe, on reconnaît les chanteurs qui passent dans cette émission, car ce sont toujours les vrais, comme Trenet, comme Brassens, comme Brel, comme Ferrat, mais vous voyez que Esther O'Farrin a sa place.
Je comprends, surtout quand elle chante des choses de cette qualité. Et c'est grâce à ça qu'elle aura sa vraie place, parce qu'elle les chante très bien, elle a une belle voix et une sensibilité. Il faut qu'elle la mette au service, qu'elle les mette au service de jolies choses. C'est tout à fait naturel.
Charles Trenet, soyons un peu plus graves.
Si vous voulez.
Je ne voudrais pas que vous puissiez penser que je tombe dans le feu d'hiver. Mais il est une expérience malheureuse qui vous a marqué, qui vous a griffé, physiquement et moralement. Victime d'accusations mensongères, et je le sais, vous avez passé 28 jours en prison à Aix-en-Provence.
Oh, mais il y a longtemps, ça, je l'ai complètement oublié, tout le monde l'a oublié du reste.
Ça vous gêne d'en parler ?
Oh, pas du tout, non, pas du tout. Enfin, je ne vois pas l'intérêt que ça peut te...
Si, ça fait partie avoir. De votre légende, dans le fond.
Oh non,
c'est comme les grands personnages, vous savez, il faut qu'ils aient tout fait.
Oui, mais c'est ça qui est étouffant, justement. Moi, je n'ai pas tout fait, je n'ai rien fait. Rien fait du tout. Seulement, on sait plus, comme ça, à construire toute une histoire, il faut bien. Regardez l'autre jour, des enfants ont mis des pétards dans ma boîte aux lettres. Mais on a cru que j'ai reçu aujourd'hui une lettre d'un abbé très gentil qui a fait son sévilistère avec moi, l'abbé Gosselin, qui est dans le Nord maintenant, et qui me dit, j'ai appris l'attentat dont tu as été victime, etc. Il croit que j'ai un œil en moins, etc. C'est affreux. On exagère toujours tout. Et même dans le bon côté, vous savez, finalement, si j'ai un peu de succès, on dira il a fait un triomphe. Et si un jour le public m'accueille avec un petit peu plus de froideur, on dira il a fait un bit noir, il ne vaut plus rien, etc. On déforme toujours tout. Et je suis un peu habitué à ça, vous comprenez. Alors que cette histoire d'Aix-en-Provence ait été défigurée, et même par la police et par les avocats, c'est fort possible.
Oui, mais ce qui était extraordinaire, c'est qu'à la sortie de prison, il y avait 3000 personnes qui vous attendaient.
3000 amis, c'est vrai.
Et ça, c'est un signe.
Oui, oui, certainement. C'est un signe, mais il faut dire que les gens étaient trop gentils.
Je voulais en arriver là.
La plupart, vous voyez, les gens ont une telle gentillesse que finalement, ils arrivent à être injustes quand ils aiment quelque chose. Parce que la plupart des lettres que j'ai reçues disaient « Oh ben oui, évidemment, oui, oui, mais enfin, on vous aime malgré tout, hein Voilà. Alors ça voulait dire, on sait très bien que vous n'êtes pas un criminel, qu'on peut vous passer certaines petites fautes comme ça, et dans le fond, on s'en fiche complètement, on vous aime tellement. Voilà, on ne cherchait même pas à savoir si c'était vrai ou pas vrai. Or, c'était pas vrai.
Et le plastique dans votre boîte à lettres, puisque vous m'en parliez.
Mais le plastique, c'est pas du plastique.
J'ai lu que c'était une femme.
On l'a cru. Il y a plusieurs pistes. Il y a plusieurs pistes. Parce qu'il y a une femme, voilà une chose à considérer du point de vue psychologique. Il y a une femme qui est jalouse du courrier que je reçois. Elle voudrait que je ne reçoive que ses lettres. Pour être sûr que je ne lirai que ça. Il faut tout de même que je me penche un petit peu plus sur le courrier que m'envoient surtout en ce moment les auditeurs pour trouver des interprètes et des chanteurs. Eh bien, cette femme me dit non, il n'y a que mes lettres qu'il faut lire, etc. Alors on a cru que c'était elle qui avait plastiqué, c'est un grand mot, qui avait mis les pétards dans la boîte aux lettres. Le premier jour, les policiers ont emporté ces pétards. Et non, d'un pétard, c'était pas du plastique. C'était des pétards du 14 juillet, c'était certainement des gamins du quartier qui peut-être ne savaient même pas que c'était ma boîte aux lettres, enfin je n'en sais rien.
Charles Trenet, il fut une époque où vous formiez avec Johnny S. un duo reconnu par la critique. Puis tout a craqué, Charlie est devenu Trenet, c'est vous, et Johnny a pris du goût pour les affaires. Est-ce que vous vous rappelez cette période ?
Oui, je me rappelle très bien. D'ailleurs, Johnny a toujours eu un très grand sens des affaires. Et lorsque nous étions en tandem, il s'occupait de la partie commerciale, notre numéro. Il allait voir les impresarios, il discutait avec eux. Il était plus fort que moi pour ça. Et moi, par la suite, j'ai un petit peu appris maintenant à discuter les affaires, mais pas trop quand même. Enfin, je suis arrivé à faire croire que j'étais très fort en affaires, c'est très curieux. Je ne suis pas du tout fort en affaires, et les gens sont persuadés. Et plus je dis que je suis nul, plus on me dit, mais non, vous êtes très fort. Parce qu'à mon âge, quand on n'est pas complètement ruiné, eh bien les gens sont persuadés que vous êtes immensément riche.
C'est un peu le
cas.
Et
que vous êtes très fort.
C'est un peu le cas, vous n'êtes pas pauvre.
Non, bien sûr, mais je vais encore vous dire une banalité. La richesse, c'est curieux. Les gens s'imaginent toujours que la richesse, c'est d'avoir un compte en banque. Oui, évidemment, ce n'est pas détestable. Mais enfin, la richesse, c'est d'avoir beaucoup d'espoir, une bonne santé, et les moyens aussi, avec ce compte en banque, de payer les impôts. Car il faut y penser aussi. Moi, je ne sais pas comment vivent les autres, même les autres artistes que je vois dépenser des sommes astronomiques. Ils doivent avoir des ennuis avec leurs percepteurs, ce que je ne leur souhaite pas. Mais enfin, moi, régulièrement, je paye mes impôts et je puis le dire ouvertement, je ne dois pas un sou au fisc. Eh bien, c'est très difficile. Car il y a 4 ans, je lui devais pas mal d'argent et je remontais la situation justement en m'organisant. Et maintenant, je ne dois d'argent à personne.
Voilà qui est dit.
Voilà.
Aujourd'hui, Charles Trenet, votre ami Johnny S., qui a la nostalgie du bon vieux temps, voudrait et je le sais, vous retrouver.
Oh, mais avec joie, mais
d'ailleurs... Pensez-vous que par amitié, vous pourriez reconstituer ce qui fut, pas pour vous, mais pour lui? Est-ce que vous pensez que vous pourriez refaire votre duo?
Oh, mais très bien, on pourrait chanter ensemble. Seulement, il faudrait qu'on répète un petit peu. Mais Johnny a certainement conservé sa jolie voix d'autrefois. Il ne doit pas avoir changé de voix. Il avait une voix plus jolie que moi. Il avait une voix aiguë et très pure. Il n'avait pas de vibrato. Il chantait très bien, très juste. D'ailleurs, c'est un excellent musicien.
Bon, j'espère qu'on vous retrouvera tous les deux peut-être pour une émission ou...
Mais pourquoi pas avec joie?
Vous savez, Charles Trenet, que le temps a passé très vite. Je vous rappelle que c'était Radioscopie. Je remercie votre frère Claude Trenet. Charles Trenet, au revoir.
Au revoir, Jacques Chancel.